7h58 sur Radio Panique et notre invité Vincent Lefebvre est arrivé en studio. Bonjour Vincent.
Mais bonjour Vincent, comment allez-vous? Merci d'être là parmi nous.
Vais bien Julien.
Ok, merci. Alors, on vous a invité parce que comme on l'a déjà annoncé, vous participez à une initiative qui nous intéresse tout particulièrement puisqu'il s'agit d'une web radio et à Radio Panique, on aime bien faire écho à des initiatives radiophoniques évidemment non commerciales et pertinentes et on y reviendra dans un instant. Mais vous êtes également l'auteur d'un ouvrage qui est sorti récemment, eh bien on trouvait tout à fait utile de profiter de votre présence parmi nous dans nos studios pour parler de cet ouvrage. Et vous allez, le temps que vous repreniez vos esprits après ces 5 étages gravis à pied, on va s'écouter un tout petit morceau pour introduire ce premier entretien avec notre invité Vincent Lefebvre et on en reparle juste après.
On y va ?
7h, 9h, les promesses de l'aube.
Et pour les plus assidus,
du lundi au jeudi.
Ah bah c'est bon, c'est bon.
105.4 FM.
Des promesses, toujours des promesses.
7h, 9h, les promesses de l'aube.
Voilà, on s'écoute. C'était un morceau qui s'intitule Anna Arendt du groupe espagnol Charades, extrait de leur album En Ningún Lugar, donc en français Nulle Part. Alors malgré tous mes efforts, cher Vincent Lefebvre, je n'ai pas réussi à trouver les paroles de cette chanson, mais enfin voilà. Alors pourquoi une chanson qui s'appelle Anna Arendt? Parce que vous êtes juriste, philosophe, chercheur à l'Université libre de Bruxelles et plus exactement au Centre de droit public, et vous avez consacré votre thèse de doctorat à la pensée d'Anna Arendt, et d'ailleurs ça a fait l'objet d'une publication tout à fait fascinante qui s'intitule Politique des limites, limites de la politique, la place du droit dans la pensée de Anna Arendt, publiée aux éditions de l'Université libre de Bruxelles. Alors ça a été publié il y a quelques mois, mais on voulait profiter de l'occasion pour peut-être revenir sur l'œuvre, la pensée de cette philosophe, journaliste. Qui est Anna Arendt, Vincent Lefebvre?
Oui, effectivement, Julien, j'ai pu travailler dans le cadre d'une thèse de doctorat sur la pensée de Anna Arendt, et donc une thèse de doctorat réalisée à l'Université libre de Bruxelles sous la direction de Julie Allard, et également de Luc Wingens, et j'ai choisi de traiter un aspect particulier de cette pensée, c'est-à-dire j'ai voulu explorer sa dimension juridique, alors que Anna Arendt est plutôt connue comme une philosophe ou un penseur du politique. Et c'est d'ailleurs, elle a à son actif une œuvre qui est une des plus marquantes du XXe siècle, une des plus commentées aujourd'hui, avec celle, par exemple, de Foucault ou d'un philosophe américain qui s'appelle John Rawls. C'est l'une des philosophes les plus cités dans le monde entier.
Et excusez-moi, mais qu'est-ce qui explique ce succès de la part, dans le champ philosophique et dans le champ de la philosophie politique de Hannah Arendt, d'après vous ?
C'est sans doute dû à une caractéristique de sa pensée qui est de ne pas se laisser prendre facilement dans les catégories habituelles, par exemple l'opposition entre les libéraux, les communautariens ou l'opposition cardinale en philosophie politique entre libéralisme et socialisme. Disons qu'elle échappe assez largement à ces catégories, et l'histoire de la réception de l'œuvre d'Arendt pourrait être faite dans chaque pays. Si on prend le cas de la France et disons du monde francophone, au départ la pensée d'Arendt n'était pas spécialement bien reçue, et spécialement son premier grand ouvrage, Les origines du totalitarisme, qui consiste en fait à forger un concept de totalitarisme dans lequel sont repris deux phénomènes politiques distincts, l'hitlérisme, donc le nazisme, et le stalinisme, n'a pas été spécialement bien reçu par certains milieux dans les années 50 et 60 en France, par exemple. Donc Hannah Arendt a été largement redécouverte dans un pays comme la France ou dans le monde francophone en général, disons à partir des années 80, où des philosophes se sont rendus compte du potentiel de sa pensée et des concepts qu'elle a forgés.
Donc elle est d'origine allemande, nationalisée américaine, hein, donc elle est morte il y a à peu près une quarantaine d'années, en 1975.
Oui.
Vous l'avez rappelé, elle est connue pour ses travaux sur le totalitarisme. Elle est aussi assez connue sur la couverture qu'elle a réalisée du procès d'Adolf Eichmann en 1961 à Jérusalem. Et on a tendance à la résumer, alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas, et je suis ravi de vous poser la question, mais on dirait qu'on a tendance à résumer Hannah Arendt à ce travail justement sur le totalitarisme, sur le procès Eichmann et cette espèce d'expression terriblement suggestive qui est la banalité du mal. Alors est-ce que c'est trop réducteur ou est-ce que ça reste encore l'œuvre, un des pivots de son œuvre ?
Julien, je vous dirais que c'est d'une part réducteur, puisque la pensée d'Arendt évidemment ne se résume pas à ce reportage, comme elle l'appelle, qu'elle a fait du procès d'Adolf Eichmann, procès qui s'est tenu à Jérusalem en 1961, qui a donc donné une série d'articles dans une revue qui s'appelle The New Yorker, avant de devenir un livre publié, comme vous le dites, en 1963. Alors c'est certainement une étape très importante dans la pensée d'Arendt, mais qui doit être placée dans une œuvre qui évidemment commence bien avant, qui se déploie à travers le livre dont j'ai parlé, Les origines du totalitarisme, dans lequel une notion de totalitarisme est déployée. Et évidemment, il y a des liens entre le regard que porte Arendt sur Adolf Eichmann en 1961 et ses propres travaux sur le totalitarisme, même s'il ne s'agit pas évidemment de plaquer sa théorie du totalitarisme sur un événement judiciaire. Et puis il y a aussi toute une philosophie politique qu'elle a développée, notamment dans un livre très connu par ailleurs, qui s'appelle « Conditions de l'homme moderne ».
Vous parlez d'une pensée politique, mais vous êtes intéressé, et c'est sans doute ça l'originalité de votre démarche et donc de votre ouvrage, on en rappelle le titre, « Politique des limites, limites de la politique ». La place du droit dans la pensée de Hannah Arendt aux éditions de l'Université libre de Bruxelles. Mais donc vous vous êtes intéressé aux dimensions juridiques de sa pensée. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Autrement dit, en quoi les travaux de philosophie politique d'Hannah Arendt vous permettent de tracer un portrait de sa vision du droit ?
Mais ça vient peut-être de mon propre parcours, parce que je suis au départ juriste et puis je me suis spécialisé en théorie du droit et en philosophie. Et pendant mes études en philosophie, je me suis rendu compte, en travaillant la pensée d'Hannah Arendt, qui m'intéressait particulièrement, qu'il y avait une présence vraiment très importante du droit dans ses écrits. Alors, soit une présence diffuse dans certains écrits que j'ai cités tout à l'heure, où on allait trouver à certains endroits stratégiques de son argumentation des développements sur le droit, mais qui n'étaient pas présentés de manière comme telle ou de façon systématique, puis des écrits qui sont plus directement juridiques, comme sa plus connue critique des droits de l'homme, qui est encore largement utilisée et commentée aujourd'hui. Et j'ai souhaité réorganiser cette pensée du droit afin de montrer à la fois que cette dimension, si on la faisait apparaître, était une clé d'interprétation importante de l'œuvre d'Arendt. Elle montrait comment elle pouvait développer un concept de politique qui soit à la fois très exigeant en termes de liberté politique, qui s'apparente chez Arendt à un surgissement de la nouveauté, la spontanéité humaine dans l'espace public, et en même temps une insistance sur les moyens qui permettent de conserver un monde commun, une durabilité du monde qui est nécessaire justement à la survenance de la liberté.
Mmh. Et alors, donc votre travail a été vraiment presque un travail de maqueterie, c'est-à-dire d'aller retrouver des éléments un peu éparpillés dans sa pensée pour en extraire une certaine vision du droit. Dans sa pensée, dans ses ouvrages, et j'ai évidemment largement parcouru votre propre ouvrage, il y a toute une dimension qu'on pourrait qualifier d'historique, c'est-à-dire que Hannah Arendt a revisité certains régimes politiques et en a conclu certains éléments juridiques. En tout cas, vous en avez déduit une certaine vision du droit. On peut peut-être revenir sur l'un ou l'autre de cette période historique, par exemple l'Antiquité ou les périodes révolutionnaires. Hein. C'est comme ça que vous avez organisé en tout cas le début de votre ouvrage.
Oui, tout à fait. Il faut évidemment rappeler l'insistance de Hannah Arendt et sa très grande connaissance en fait des sources de l'Antiquité, hein, puisqu'elle connaît très très bien les sources grecques et les sources romaines, spécialement les sources politiques, mais pas uniquement, et évidemment la grande tradition philosophique depuis Platon, et depuis Socrate même, avant Platon, puisqu'elle réinterprète aussi la figure de Socrate. Il fallait évidemment donner une place à cela, c'est en insistant sur l'importance pour Hannah Arendt de l'héritage romain dans sa conception du droit. Voilà, pour plus de détails, il faudrait sans doute que j'aie plus de temps pour développer, mais il y a un élément qui est peut-être moins connu dans sa pensée que moi j'ai été amené à redécouvrir, c'est que justement en 1963, année où elle publie Eichmann à Jérusalem, elle publie un autre livre sur lequel elle a travaillé pendant plusieurs années qui s'appelle On Revolution et qui a été traduit une première fois en français par le titre « Essai sur la Révolution » et qui, donc on parlait de réception d'une œuvre tout à l'heure, a été traduit d'une manière un peu maladroite, ce qui a fait que ce livre, pendant plusieurs décennies, en tout cas dans le champ intellectuel français, n'a peut-être pas reçu l'attention qu'il méritait. Et donc il fallait, dans le cadre de ma thèse, évidemment, relire ce livre en anglais. Et puis il a fait l'objet, d'ailleurs, il y a quelques années, d'une nouvelle traduction qui est plus conforme à l'esprit et la lettre de l'ouvrage d'Arendt. Et dans ce livre, elle propose une lecture très, très originale et très stimulante de la Révolution américaine, mm-hmm. où elle oppose Révolution américaine et Révolution française, et d'une certaine manière fait un éloge de la Révolution américaine, notamment parce qu'elle estime que le système institutionnel américain, notamment au regard de la place qui est conférée au pouvoir judiciaire en son sein, est une des républiques, si vous voulez, qui est le produit de la modernité le plus solide, Et d'ailleurs, l'histoire nous a montré que la Constitution américaine n'a jamais été modifiée. Il y a des amendements qui sont apportés à la Constitution qui ont été apportés, mais en tant que tel, le texte de base est toujours celui qui a été adopté à la fin du XVIIIe siècle. Et je pense que là, il y a dans la lecture arendtienne de la Révolution américaine, qui est évidemment beaucoup plus complexe que ce que je viens de rapporter, il y a peut-être des éléments intéressants pour penser l'actualité de la République américaine qui subit aujourd'hui une crise majeure avec l'élection de Donald Trump, dont on parle beaucoup, mais on manque peut-être parfois du recul historique, comme vous disiez, et peut-être de clés théoriques pour aborder ces événements.
Et donc par rapport au droit, alors du coup au droit produit par cette révolution américaine, qu'est-ce qui singulariserait à la fois ce droit particulier, et est-ce que la valorisation que mène Hannah Arendt par rapport à cette révolution se répercute également sur le système juridique américain né de cette révolution ?
Alors le propos d'Arendt par rapport à la place du droit et du judiciaire dans l'architecture institutionnelle américaine concerne à titre principal, même si ce n'est pas exclusivement, le rôle de la Cour suprême aux États-Unis, qui est un rôle très différent que, en tout cas, historiquement, c'est un rôle qui est assez particulier. Il y a un rôle beaucoup plus politique joué par la Cour suprême dans les débats parfois les plus chauds qui surgissent dans l'espace public américain. Son interprétation a ceci d'original qu'elle estime que la solidité de la République américaine provient de l'importance qui a été accordée au moment fondateur, c'est-à-dire le moment d'une part de la libération par rapport à la couronne britannique, et puis un deuxième moment qui est fort important selon Arendt et sur lequel elle insiste, c'est-à-dire un moment de fondation de la liberté au moyen d'une constitution. Et cette constitution est effectivement l'objet d'un culte de la part des élites et du peuple américain depuis ses origines. Évidemment, il y a une histoire de cet attachement à la constitution avec des points des moments de crise, mais qui sont toujours d'une certaine manière surmontés, notamment parce qu'on accorde à la Cour suprême le rôle de gardien de la Constitution, c'est-à-dire on demande à la Cour suprême de prolonger, d'accroître le moment originel, le moment de la fondation, afin de faire perdurer la République américaine, tout en gardant toujours vivant les principes qui ont présidé à sa Constitution. Et pour Arendt, ça c'est, si vous voulez, c'est l'esprit romain de la fondation américaine, c'est-à-dire voilà.
Oui, c'est un esprit qu'on retrouverait pas alors dans la Révolution française.
C'est un esprit qui pour Arendt a été perdu dans le cours de la Révolution française, qui se traduit par la victoire des montagnards vis-à-vis des Girondins, et qui, d'une certaine manière, alors le constat d'Arendt ici est assez, si vous voulez, c'est pas un constat moral, ce n'est pas de dire c'est parce que Saint-Just et Robespierre étaient des mauvais hommes que la Révolution a échoué, c'est plutôt, elle considère ici, elle met en avant des facteurs économiques, ce qui n'est d'ailleurs pas très courant dans sa pensée, mais elle estime que la situation de misère écrasante dans laquelle se trouvait la France de la fin du XVIIIe siècle a conduit, sans doute, en tout cas constitué un facteur important qui explique que ce projet de fondation durable d'une république a été submergé par la question de la résolution de la misère, c'est-à-dire la question sociale, comme elle l'appelle.
Question qu'on ne retrouvait pas avec la même acuité aux États-Unis au moment de l'indépendance.
C'est en tout cas son interprétation, oui.
D'accord, 8h17, Hannah Arendt, Radio Panique, et notre invité Vincent Lefèvre pour en parler. On va s'écouter un petit son, Arnaud, qui vient de mon ordinateur, et puis on revient à notre invité.
Hast du die Zeitung noch nicht gelesen?
Seite für Seite.
Die wollen ihn in Jerusalem vor Gericht stellen.
Isn't it incredible that the Hannah Arendt is offering to report for us?
She should be begging to write for the New Yorker.
Musst du dir das wirklich antun?
Ich würde mir das nie verzeihen, wenn ich diese Gelegenheit nicht wahrnehmen würde.
to Hannah in honor of her trip to Jerusalem.
Mein Hannah.
Dieser Prozess ist sehr wichtig für uns.
Hat man Ihnen nachgewiesen, dass die Juden müssen vernichtet werden?
Ich habe sie nicht vernichtet.
Eichmann, kein Antisemit? Was ist denn das für ein Humbug?
Du hast ihn doch selber gehört, er hat nur dem Gesetz gehorcht.
Hannah, bitte, du kannst das so nicht schreiben, nicht für den New Yorker.
There were recognized Jewish leaders, and this leadership cooperated with the Nazis. They'll have our heads for this.
In den Daily News gab es folgende Schlagzeile. Hannah Arendt's bizarre defense of Eichmann.
Sie denken, deine Artikel sind großartig. Und die wünschen dir den Tod. Manche sogar auf sehr fantasievolle Weise.
The greatest evil in the world is the evil committed by nobodies.
Did you really have no idea there would be such a furious reaction?
Trying to understand is not the same as forgiveness.
Diesmal bist du zu weit gegangen.
It is this phenomenon that I have called the banality of evil.
Voilà, en fait, on s'écoute le trailer d'un film consacré, un biopic consacré à Hannah Arendt, réalisé par Margaret von Trotta avec Barbara Sukowa dans le rôle titre, dans le rôle de Hannah Arendt. Donc un film germano-luxembourgeois français qui est sorti donc en 2012, en tout cas en Belgique. Vous l'avez vu, Vincent Lefebvre, ce film ?
Oui, je l'ai vu avec beaucoup d'intérêt.
Apparemment, donc, moi je ne l'ai pas vu, mais d'après sa bande-annonce, il est quand même fort consacré donc, au reportage qu'a réalisé Hannah Arendt sur le procès Eichmann. Vous en avez pensé quoi, vous qui êtes un spécialiste de cette philosophe? Vous avez pensé quoi de ce film?
J'en ai pensé plusieurs choses. Mon avis était plutôt positif. Je pense que d'ailleurs la réalisatrice Margaret von Trotta s'est expliquée concernant ce choix assez cinématographique finalement de filmer cette controverse, et je pense que c'était un choix judicieux, d'autant qu'elle essaye et parvient d'ailleurs avec un certain succès à replacer évidemment cet événement dans une biographie. Donc j'ai été intéressé par ce film et peut-être que là mon regard de spécialiste entre guillemets m'a réservé des surprises, puisque il y a certaines parties des dialogues qui sont un peu des espèces de collages, si vous voulez, d'extraits de la correspondance d'Arendt qui était une grande épistolière, qui a une correspondance fournie avec beaucoup de personnes, et certains d'ailleurs grands intellectuels de l'époque, de l'après-deuxième guerre mondiale. Donc il y avait des extraits à la fois de textes, de conférences, de correspondances, et donc moi j'avais cet effet de collage étant en plein dans ma thèse. J'avais l'impression que certains morceaux des extraits sur lesquels je travaillais se retrouvaient portés à l'écran. Donc c'était un peu une expérience étrange, mais j'ai trouvé ce film intéressant et très bien interprété par ailleurs.
Alors, pourquoi passer ce petit trailer ? Parce que je pense que la vie même de Hannah Arendt n'est pas sans rapport, évidemment, le contraire serait impossible, mais n'est pas sans rapport avec toute une partie de son œuvre. Et donc on rappelle, Hannah Arendt, elle est née en 1906, elle est allemande, elle est juive, c'est une intellectuelle, et évidemment à partir des années 30, être juive et intellectuelle en Allemagne, ce ne sera pas la meilleure des choses. Et donc elle va fuir l'Allemagne nazie et elle va devenir apatride pendant 14 ans avant d'obtenir la nationalité américaine. Alors est-ce que cette situation d'apatride, donc on rappelle l'apatride c'est le fait de ne pas avoir de nationalité, hein, comment vous voyez que... Est-ce que cette situation a pu peser sur son œuvre et, le cas échéant, sur la dimension juridique de sa pensée ?
Elle a en tout cas énormément pesé sur son parcours de vie et sur son œuvre, je dirais, et ça c'est bien rendu dans le film, c'est-à-dire que la biographie s'avère indissociable de la pensée dans le cas d'Arendt et peut-être dans le cas d'autres personnalités de grands noms du monde intellectuel. C'est en tout cas une possibilité. En tout cas, chez Arendt, c'est assez clair. je parlais tout à l'heure, par exemple, de son livre sur la Révolution, et où elle fait l'éloge en particulier de la Révolution américaine. C'est sans doute une dette aussi qu'elle a contractée à l'égard de des États-Unis d'Amérique, qui l'ont effectivement... elle a acquis la nationalité américaine en 1950, après avoir séjourné une dizaine d'années aux États-Unis, sur le sol américain. Donc pour elle, c'est aussi cet intérêt qu'elle a porté au moment fondateur des États-Unis, et cette relecture qu'elle propose de l'histoire américaine est sans doute une dette qu'elle paye aux États-Unis. Évidemment, le fait de penser, de se tourner vers la chose politique et vers la pensée politique pour notamment créer forger ce concept de totalitarisme, c'est une réponse à l'événement dans lequel elle-même a été prise d'une manière tout à fait dramatique, puisqu'elle a fui l'Allemagne dès 1933, a été réfugiée en France jusqu'en 1940, avant de devoir fuir au début de la guerre, d'abord au Portugal et puis aux États-Unis. Donc certainement, et sur sa pensée du droit, l'influence est assez marquante dans sa pensée des droits de l'homme et sa critique des droits de l'homme, puisque justement, pour penser...
Elle critique les droits de l'homme alors qu'elle-même a fui un régime qui en constituait presque la négation.
Oui, tout à fait. Donc, elle propose une critique des droits de l'homme au sens évidemment, alors il faut nuancer, c'est-à-dire qu'elle ne critique pas le principe même des droits de l'homme, puisqu'elle finit par reconnaître l'existence d'un droit de l'homme qu'elle essaye de décrire comme un droit à l'inclusion politique. Donc, le droit d'être inclus dans une communauté politique déterminée, pour elle, c'est le seul droit que l'homme a en tant qu'homme, que l'être humain a en tant qu'être humain. Et les droits de l'homme, ce qu'on appelle les droits de l'homme généralement, sont en réalité pour elle des droits du citoyen, c'est-à-dire des droits qui ne sont effectifs que si on dispose de ce droit préalable à l'inclusion politique. Et je pense, et c'est très clair que sa pensée alors est inspirée par à la fois son expérience personnelle et puis l'observation de la situation des réfugiés dans la période d'entre-deux-guerres, parce qu'on l'a... On l'a très largement oublié aujourd'hui, mais la Première Guerre mondiale a généré des masses de réfugiés à travers l'Europe. On parle beaucoup des réfugiés à la fin de la Seconde Guerre mondiale actuellement, mais on oublie qu'il y a eu au début du siècle cette situation où de nombreuses personnes sont devenues réfugiées suite à la dislocation des empires d'Europe centrale et à... la redéfinition des frontières en Europe. Et Arendt, en se fondant sur cette observation, constate que les réfugiés et les apatrides de l'entre-deux-guerres ne tombaient pas dans la situation de l'homme des déclarations, entendu les déclarations des droits de l'homme, mais au contraire, se retrouvaient sans droit. Et elle forge cette figure du sans-droit afin de penser justement ce droit préalable à l'inclusion politique. Qu'elle appelle le droit d'avoir des droits.
Le droit d'avoir des droits. Alors évidemment, pas besoin de longues explications pour apercevoir évidemment l'actualité de cette formule du droit d'avoir des droits à l'époque où on multiplie les personnes précisément sans droits. On aurait encore énormément de choses à dire, Vincent Lefebvre, sur votre recherche et votre ouvrage Politique des limites et limites de la politique, la pensée juridique chez Hannah Arendt, publié aux éditions de l'Université libre de Bruxelles. Alors peut-être une dernière question avant de venir à une autre initiative à laquelle vous participer, qui est Amicus Radio. Mais une dernière question, dans votre ouvrage, la fin se termine par 10 aphorismes qui résument en quelque sorte à la fois l'œuvre de Hannah Arendt, mais surtout qui résument votre propre analyse. Alors, pour rester dans l'actualité, il y a toute une partie de votre ouvrage qui est consacrée à la désobéissance civile et à la pensée d'Hannah Arendt sur ce point. Et alors, je vous cite, donc c'est un de vos... C'est votre 10e aphorisme. Alors, je cite, le consentement aux lois peut être ou bien effectif ou bien tacite, et dans chacune de ces hypothèses, cela implique qu'il peut à tout moment être retiré. Alors, Vincent Lefebvre, que nous dit Hannah Arendt sur la désobéissance civile et en quoi éventuellement cette pensée peut encore nous inspirer aujourd'hui ?
La désobéissance civile intéresse Arendt parce que, d'une certaine manière, là on se situe dans une situation frontalière, si je puis dire, entre le domaine du droit et le domaine de la politique. Et selon elle, d'un point de vue, disons, méthodologique, c'est sans doute dans ces situations frontalières entre les domaines de l'existence qu'on peut essayer de penser la particularité de ces domaines, leurs caractéristiques. Et c'est pourquoi elle s'intéresse au phénomène de la désobéissance civile. Et ce qui l'intéresse là-dedans, c'est ce constat d'une violation du droit ou d'une violation de la loi ou d'une disposition particulière d'une loi au nom du droit lui-même. Donc c'est une manière de faire, en violant la loi, on fait hommage, on rend hommage à des principes qui sont censés gouverner le droit lui-même. Et c'est comme ça qu'elle analyse les phénomènes de désobéissance civile, et son souhait est alors de penser l'événement, comme c'est souvent le cas chez Arendt, qui est non seulement une théoricienne, mais qui se nourrissait en permanence de son observation des réalités. Et elle constate, évidemment, elle observe les campagnes de désobéissance civile aux États-Unis dans les années 60, dans le cadre de la lutte contre l'intervention militaire au Vietnam ou la lutte pour les droits civiques. Et essaye de montrer, si vous voulez, le patriotisme constitutionnel de ces jeunes ou moins jeunes qui pratiquent la désobéissance civile comme moyen d'action politique. C'est intéressant parce qu'il y a aussi cette dimension presque libertaire de la pensée d'Arendt, où elle s'intéresse évidemment à des phénomènes qui sont plus marginaux et qui peuvent être aussi considérés comme des phénomènes qui relèvent purement et simplement de la délinquance, qui a été évidemment un moyen, un argument politique avancé à l'époque et qu'il y a encore aujourd'hui d'ailleurs.
Évidemment, mais paradoxalement, donc pour Hannah Arendt, violer la loi, c'est faire preuve d'un certain patriotisme constitutionnel, comme vous venez de le dire.
Tout à fait, elle estime d'ailleurs que c'est parce qu'il y a une inaction des autres pouvoirs, en particulier évidemment l'exécutif, pensons au rôle de Nixon pendant cette période-là, mais pas uniquement Nixon d'ailleurs, d'ailleurs elle critique à ce moment la Cour suprême en estimant que la Cour suprême n'assume pas l'autorité qui est la sienne constitutionnellement aux États-Unis, donc ne parvient pas, si vous voulez, à pacifier la société américaine. Et c'est pour cela que des moyens différents, et notamment ceux de la désobéissance civile, doivent être employés. Et Arendt va plus loin en proposant même, alors c'est une proposition qui peut encore nous faire réfléchir aujourd'hui, elle propose qu'on instaure constitutionnellement la possibilité pour les personnes qui pratiquent la désobéissance civile d'être regroupées, si vous voulez, dans un forum où elles pourront exposer leur vue. Et donc elle propose d'institutionnaliser la désobéissance civile suivant des modalités qui ne sont pas très précises, mais en tout cas elle voudrait qu'il y ait un vrai espace politique qui soit offert à ceux qui pratiquent la désobéissance civile. Sur ce point, je considère peut-être, avec mes lunettes de théoricien, de philosophe du droit, que peut-être Arendt n'a pas aperçu justement le potentiel de l'espace judiciaire, et donc désobéissance civile est aussi un appel au juge, donc une volonté de se réapproprier l'espace judiciaire au moyen de la violation de la loi pour porter un message politique. Ce qui est, par exemple, clair si on prend l'actualité la plus récente, dans le cas, il me semble, de ceux qui pratiquent la désobéissance civile en aidant les réfugiés en France, notamment Cédric Héroux, qui a été condamné récemment et qui utilise, bien sûr, le procès comme une tribune politique, ce qui lui a été reproché d'ailleurs par le procureur dans cette dernière affaire.
Fort bien, on va à 8h32, on aurait encore plein de choses à dire. Vincent Lefebvre, vous êtes passionnant et intarissable sur la pensée de Hannah Arendt. On va faire une toute petite pause, un petit jingle concours, cher Arnaud.
Un petit jingle concours.
Un petit jingle concours.
Concours.
Et oui, concours, un concours téléphonique. Concours. Vous appelez le 02 732 0450 si vous trouvez le point commun, le lien plus exactement, entre un groupe industriel américain qui s'appelle Ministry et dont on écoute quelques mesures, le morceau s'appelle Revenge, Revenge chez Led Zeppelin. Quelques mesures pour se faire plaisir et se réveiller. Il est 8h33 de World Lotta Love, bien entendu. Et donc, Ministry, Led Zeppelin, qu'est-ce qui les unit en ce 28 mars ? Nous attendons vos réponses au 02 732 0450. Vous avez encore une toute petite demi-heure pour gagner, avoir la chance de gagner des badges, des bigs, des DVD, des CD Radio Panique. Toute petite demi-heure que nous avons le plaisir de passer en compagnie de Vincent Lefebvre, juriste, philosophe et chercheur au Centre de droit public de l'Université libre de Bruxelles. Il vient de nous présenter sa recherche doctorale sur Hannah Arendt. On rappelle le titre de son ouvrage « Politique des limites, limites de la politique, la place du droit dans la pensée de Hannah Arendt ». Mais Vincent Lefebvre, vous venez ici, et c'est surtout pour ça qu'on vous a invité au départ, pour nous parler de Amicus Radio. Alors, Amicus Radio, c'est une radio en latin, c'est une radio pour se faire des amis. C'est quoi exactement Amicus Radio ?
Alors, Amicus Radio est une initiative récente qui implique un partenariat entre des chercheurs, des professeurs d'université, des journalistes, des penseurs qui ont en commun de s'intéresser au droit et à la justice et de vouloir créer un certain nombre d'initiatives qui visent à être au plus près des évolutions contemporaines dans le domaine du droit et de la justice. Alors, le projet de radio s'inscrit dans un projet plus large qui s'appelle Amicus Courrier.
Dire quoi Amicus Courrier, Vincent ?
Alors, l'Amicus Courrier, c'est un terme latin qui désigne l'ami de la cour, c'est-à-dire une ressource procédurale qui existe dans certains, qui a existé à certaines époques et qui existe dans certains systèmes judiciaires, où le juge peut demander à une personne qui fait autorité dans un domaine de lui donner un avis qui pourra éclairer son jugement par rapport à l'affaire qu'il s'agit en l'occurrence de trancher. Donc ici il y a une reprise évidemment de ce terme assez intéressante. Qui montre bien cette idée à la fois d'un dialogue et de la volonté d'agir sur la manière dont la justice se fait ou en tout cas se pense.
Mmh. Et pourquoi cette initiative radiophonique ? Pourquoi pas peut-être un magazine, voire des capsules, une chaîne YouTube ? Qu'est-ce qui a justifié le choix de ce médium particulier que nous on apprécie évidemment à Radio Panique ?
Je crois, sans être moi-même un spécialiste du format radio, je crois que ça correspondait bien à la volonté de créer une plateforme ouverte et d'utiliser aussi les ressources d'une web radio aujourd'hui, donc, c'est-à-dire la possibilité que vous connaissez bien Radio Panique, de diffuser une émission qui sera à la disposition de l'auditeur et qui pourra donc l'écouter dans les meilleures conditions pour lui. Il y a aussi, je crois qu'il faut rappeler que c'est un projet qui est porté assez largement par un institut parisien français qui s'appelle l'Institut des hautes études sur la justice, l'IHEJ, pour les intimes, qui est dirigé depuis de nombreuses années par Antoine Garapon, qui mm-hmm. est un magistrat au départ, qui est aussi
un homme de radio aussi.
Un penseur du droit et un homme de radio, effectivement, qui a animé pendant de nombreuses années une émission sur France Culture, qui visait aussi à interroger non seulement les soubassements théoriques, mais aussi l'actualité du droit et de la justice. Et cette émission s'est arrêtée. Il se fait que le calendrier a fait que cette émission s'est arrêtée sur
Le bien
France,
commun, donc.
Le bien commun s'est arrêté sur France Culture. Et donc, elle reprend ici. Elle a une seconde vie dans le cadre d'Amicus Radio. Et ça permet. On sentait aussi à ce moment-là la possibilité de développer ce genre d'émission et de vraiment créer une web radio centrée sur le droit et la justice en développant un certain nombre d'émissions.
Alors, y a un site internet, vous avez parlé de web radio, donc forcément, on peut en écouter les podcasts, donc ce n'est pas une radio qui émet en direct, il n'y a pas de stream, mais par contre, vous avez toute une série de podcasts, donc l'adresse c'est radio.amicus-curiae, donc curiae. amicus.net, radio.amicus-courriae.net. Et alors, qu'est-ce qu'on y trouve comme émission, Vincent Lefebvre ? Qu'est-ce qu'on propose comme émission sur cette web radio ? Qu'est-ce qu'on peut écouter ? Qu'est-ce qu'on peut télécharger, podcaster ?
Alors, il y a plusieurs types d'émissions qu'ils ont proposées. La radio a été lancée d'ailleurs officiellement à l'automne et depuis, elle se développe, se déploie à travers plusieurs formats d'émissions. Le premier format, c'est le format magazine, dans lequel on retrouve donc l'émission Le Bien Commun qu'on a cité, l'émission d'Antoine Garapon. Mais il y a également d'autres émissions qui sont proposées. Une émission notamment qui s'appelle Angle Droit et qui abordera de façon plus journalistique, dans le bon sens du terme, justement cette actualité du droit et de la justice qui est parfois traitée de manière superficielle, mais là en prenant le temps d'aller en profondeur par rapport à des affaires et une actualité judiciaire qui est en réalité plus riche et diverse que ce que nous présentent certains médias traditionnels. Une émission qui s'appelle L'écho des codes, qui vient d'être lancée et qui proposera un éclairage historique cette fois de thèmes d'actualité ou qui ont un ancrage dans l'actualité. Ce seront donc des juristes historiens qui discuteront, débattront d'un thème qui peut être éclairé par son histoire, comme par exemple la prostitution.
Vous m'en parliez en préparant cette émission, en effet, donc la prostitution, un regard historique et juridique sur la prostitution. Qu'est-ce qu'on trouve encore dans le magasin ?
Alors on a une émission animée cette fois par Barbara Villet qui est une spécialiste des représentations de la justice dans les séries télévisées, mm-hmm. qui a énormément travaillé dans ce champ et qui s'intéressera alors à la place de la justice, si vous voulez, dans les écrans divers que nous côtoyons dans notre quotidien, le cinéma, la télévision, l'écran d'ordinateur aussi.
Eh bien Vincent Lefebvre, je vous propose qu'on s'écoute un tout petit extrait, le début de cette émission, justement, enfin, d'un des numéros de cette émission, la justice à l'œil, pour donner l'eau à la bouche à nos auditeurs et nos auditrices. Donc on rappelle, Vincent Lefebvre est dans nos studios, il est 8h41 et il nous parle d'une web radio, radio.amicus-courriae.net. On s'écoute un petit extrait de la justice à l'œil, et c'était une émission consacrée au droit dans Star Trek.
Depuis la première série télévisée en 1963, les vaisseaux spatiaux de la Fédération ont parcouru l'espace pour étudier d'autres civilisations dans la galaxie, et maintes fois ils se sont affrontés à des situations qui s'accompagnaient de dilemmes juridiques et moraux. La science-fiction recèle en effet de cas susceptibles de donner lieu à une jurisprudence dans des domaines très variés du droit, et permet de prendre conscience de questions politiques, juridiques et sociales hors de leur contexte habituel, où le lecteur ou le téléspectateur se voit privé de ses repères habituels. Ces cas lui permettent souvent de voir plus clair, d'évaluer le passé ou le présent, d'imaginer un futur peut-être pas si lointain. Et pour en parler avec nous aujourd'hui, Fabrice Desferrard, juriste, maître de conférence à la Faculté de droit de sciences politiques de Reims, membre de la Société des gens de lettres et surtout l'auteur de l'ouvrage « Le droit selon Star Trek ». Bonjour Fabrice Desferrard.
Bonjour Barbara.
Alors ma question évidente, c'est: est-ce que vous utilisez ces exemples dans vos cours de droit ? Est-ce que vous considérez une bonne idée d'utiliser Star Trek comme une formation aux juristes ou aux non-juristes, parce qu'il serait temps ?
J'aimerais bien avoir mon Master 2, droit et Star Trek, parce que c'est une clé d'entrée
tout à fait original et qui permet de faire très sérieusement du droit. Hein. C'est ce que je dis dans mon livre, c'est que, pour paraphraser le célèbre livre de Ronald Dworkin, Star Trek prend le droit au sérieux. C'est sérieux. On n'est pas, bien sûr, c'est un divertissement. Il y a des batailles spatiales et d'étranges créatures, mais le droit qu'on y fait, c'est un droit qui est tout à fait opérant, et par conséquent. Je suis absolument convaincu que l'on pourrait utiliser la richesse de cette fiction pour enseigner des grands principes du droit, ouais, qui seraient pour le coup plus attractifs pour les étudiants, mais surtout plus faciles à se représenter.
Et dans certains pays, notamment l'Italie, il y a des cours...
Voilà, on entend Barbara Villiers. La justice à l'œil, une des nombreuses émissions proposées par cette web radio, Amicus Radio, Radio Amicus, une initiative du groupe Amicus Curiae. Donc c'était le début d'une émission consacrée au droit dans une série télé particulière et culte s'il en est, Star Trek. Mais donc Vincent Lefebvre, il y a d'autres émissions encore et d'autres formats peut-être sur cette web radio.
Oui, tout à fait. Donc là, on avait un exemple donc d'une émission qui peut se pencher sur les représentations du droit et de la justice à l'écran. Il y a une émission qui s'appelle La Plume dans la Balance, qui est animée par un magistrat français qui est aussi un penseur du droit, Denis Salas, et qui s'intéresse, donc La Plume dans la Balance s'intéresse aux représentations de la justice, cette fois dans la littérature, sachant que c'est un champ qui est dans la littérature scientifique qui est explorée depuis de nombreuses années, mais évidemment qui ne tarit pas, étant donné les perspectives qu'on peut avoir sur des œuvres importantes de la littérature. Pensons au procès de Kafka, pour prendre un exemple bien connu, mais également en se tournant vers des productions plus contemporaines. Il y a d'autres formats, et effectivement, des formats qui sont plus des reportages ou des documentaires. Alors pour... il y a le documentaire Un jour avec qui est intéressant, je trouve, dans son format, c'est-à-dire qu'il s'agit de suivre pendant 24 heures un acteur de la justice, par exemple un avocat pénaliste, et donc d'aller dans les coulisses, de le suivre dans les coulisses de son activité quotidienne. Et nous, à l'ULB, en tant qu'antenne bruxelloise d'Amicus Radio, j'ai eu la chance qu'on me propose de participer à ce projet, mais aussi de manière plus active, en développant un documentaire qu'on a décidé de consacrer aux représentations du droit et de la justice au cinéma, et afin de parler en particulier de personnages judiciaires tels le juge d'instruction, l'avocat, le procureur, qui sont portés à l'écran par des réalisateurs. Et qui s'inspire des réalisateurs qui s'inspirent d'une affaire réelle, qu'ils transposent alors à l'écran afin de produire de créer une œuvre cinématographique.
En fait, on rappelle, hein, Vincent Lefebvre, vous êtes chercheur postdoc au Centre de droit public, et précisément votre recherche postdoctorale, elle est consacrée donc aux représentations du droit dans la culture populaire, et d'où cette émission Les acteurs de la justice que vous avez proposée à Amicus Radio. Je peux comprendre que ce soit amusant pour le chercheur de traquer ces représentations et de les analyser, mais je veux dire, d'un point de vue plus scientifique ou plus pédagogique, quel est l'intérêt d'aller scruter les représentations du droit, de la justice, de ces acteurs dans le cinéma en ce qui vous concerne ?
Alors, il y a effectivement des discussions au sein de ce champ qui se développe, qui s'appelle en anglais Law and Film, qu'on pourrait après appeler droit et cinéma, et en même temps on ne se limite pas au cinéma, donc droit et culture populaire, disons, ou droit et culture. Il y a des discussions concernant la méthodologie et le fait de savoir ce qu'on fait quand on mobilise des œuvres pour parler du droit et de la justice. sans pouvoir les résumer ce matin, ça nous prendrait trop de temps. En tout cas, moi, ce qui m'intéresse dans cette démarche, c'est de mobiliser, peut-être d'essayer d'aller au-delà de la simple illustration qui peut être très intéressante pour, pour atteindre des buts pédagogiques, didactiques, mais d'aller au-delà de cette illustration pour penser avec les cinéastes, pour déceler derrière l'œuvre une pensée du droit ou de la justice qui aurait certaines particularités, une originalité, un impact sur les spectateurs auquel ne pourrait pas prétendre une pensée plus abstraite, une littérature qui doit obéir au canon de l'interprétation scientifique, si vous voulez. Je suis, pour ma part, assez convaincu que derrière l'œuvre des cinéastes, en particulier les cinéastes, mais pas exclusivement, il y a une pensée qui se déploie et qui s'exprime alors par le biais des images et pas par le biais de notions ou de concepts philosophiques. C'est une vision qui est un peu inspirée de la philosophie du cinéma de Gilles Deleuze, qui, je pense, dans des ouvrages importants qu'il a publiés dans les années 80, nous ouvre certaines pistes pour penser cet usage qu'on fait des images qui ne se réduit pas alors à un usage purement stratégique des images et qui est en fait très loin de ce qui pourrait apparaître aux yeux de certains un simple gadget ou un amusement. C'est quelque chose de très sérieux qui peut se jouer dans ce recours aux images et aux œuvres culturelles.
Donc vous partez un peu du principe que Justine Arnaud, n'hésitez pas, hein, si vous avez des films de procès qui vous viennent en tête, n'hésitez pas à interroger Vincent Lefebvre, c'est vraiment le moment. Mais vous partez du principe que le cinéaste ou la cinéaste communique au même titre qu'un savant, on va dire ça, mais elle communique à l'aide du langage cinématographique qui peut être la photographie, le cadrage, le montage. Et c'est ces éléments aussi un peu formels qui vous aident à extraire une pensée de ces œuvres. Comment vous vous intéressez également aux aspects purement cinématographiques, si je puis dire?
Oui, tout à fait. Julien, d'ailleurs, vous avez employé le mot langage. Je pense que c'est une bonne manière de décrire cette communication hein, qui passe par les œuvres. En l'occurrence cinématographique, pour penser bien des choses, mais aussi le droit et la justice. Effectivement, alors là, on essaye aussi d'intégrer la dimension esthétique des œuvres, c'est quelque chose qui nous est cher, et on s'inscrit là dans une perspective réellement interdisciplinaire, si vous voulez, c'est un mot qui est souvent employé dans le monde scientifique et légitimement, mais qui évidemment implique de connaître aussi ses limites. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas un spécialiste du cinéma, je n'ai pas été formé aux études cinématographiques, et donc effectivement, je dois essayer de... Si ma majeure est la philosophie du droit, je dois aussi développer ma mineure, qui serait donc de m'intéresser aussi aux images et à... développer des outils, une manière de lire les images et de décrypter ce langage cinématographique, comme vous l'avez appelé. Mais c'est un processus en cours.
Processus en cours et processus dont rend compte notamment un cycle de conférences actuellement en cours, organisé par le Centre de droit public de l'ULB, donc où vous travaillez actuellement, Vincent Lefebvre, consacré à la justice de classe à l'écran. Et sur le site du Centre de droit public de l'ULB, donc vous le trouverez facilement sur les internets, est annoncée la prochaine conférence de ce cycle qui est consacrée aux femmes et à la justice et qui aura lieu le 18 avril à 18h. Donc n'hésitez pas à vous y inscrire. C'est évidemment gratuit. N'hésitez pas non plus à écouter Amicus Radio, radio.amicus-courrier.net, plein de documentaires, de magazines sur la vie du droit, sur ses acteurs, sous un format radiophonique. Et enfin, précipitez-vous dans les bonnes librairies. Vous pourrez acheter l'ouvrage Politique des limites, Limites de la politique, La place du droit dans la pensée de Hannah Arendt. Ouvrage donc signé par notre invité Vincent Lefebvre et ouvrage publié aux éditions de l'Université libre de Bruxelles. Merci beaucoup Vincent Lefebvre, c'était vraiment fascinant. On a qu'on aurait envie encore de continuer la discussion, et je ne doute pas que ce projet Abicus Radio étant amené à durer, je ne doute pas que vos recherches sur le droit et la culture populaire justifieront bien entendu qu'on vous réinvite dans nos studios. Merci beaucoup Vincent Lefebvre.
Merci beaucoup pour cette invitation.